RFI, 6 heures à Paris et Arcachon, 2 heures de moins en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et tous. À la une, quasiment toutes les personnes évacuées qui peuvent rentrer chez elles en Gironde, ce département du sud-ouest de la France touché par un grave incendie. Les campings, en revanche, restent vides. Et pour le secteur du tourisme, la saison s'annonce catastrophique. La crise migratoire à Ceuta, un défi pour les autorités espagnoles. Même si la plupart des migrants entrés illégalement sont repartis vers le Maroc, Madrid reste sous pression de plusieurs pays européens et de Rabat. Les attaques israéliennes meurtrières à Gaza, 152 morts en juillet. Le Hamas accuse les Israéliens de torpiller les efforts pour mettre fin à la guerre, quelques jours après l'annonce d'un accord sur le désarmement du mouvement islamiste palestinien. Et puis une Américaine de 98 ans reçoit la nationalité algérienne pour son combat en faveur de la décolonisation. On vous racontera son histoire dans ce journal. Ils vont pouvoir rentrer chez eux aujourd'hui en Gironde, le département français du sud-ouest de la France. La préfecture autorise le retour de plusieurs milliers de personnes évacuées dans les communes de Lesches-Cap-Ferret et du Porge. Au total, plus de 220 000 habitants et touristes avaient dû fuir face au grave incendie qui a ravagé 42 000 hectares. Le feu est maintenant fixé, il n'est pas éteint mais il ne progresse plus. L'ordre d'évacuation ne concerne plus que deux quartiers du Porge. Les campings restent également interdits d'accès et la reprise du tourisme s'annonce difficile. Pierre Olivier a rencontré des professionnels du secteur à Arès, au bord du bassin d'Arcachon.
Alors nous arrivons au camping Pasteur.
Bonjour.
Jean-Marie Ducamin, le patron, fait le tour de son camping épargné par les flammes.
Donc l'équipe d'entretien des mobilhommes qui est sur place, les emplacements sont déjà ratissés, mais prêts à accueillir à nouveau.
Tout est prêt, mais il ne manque qu'une chose essentielle, les campeurs.
Déjà les deux semaines du début août sont perdues, ce sont les plus grosses. Hein. Moi sur mon établissement, ça représente 40 000 euros par semaine. Il va y avoir des trous dans la raquette hein, sur les semaines qui vont suivre. En camping notamment, comme sur le passage, il n'y aura pas de passage.
Seul un emplacement est pris, Nicolas et sa femme sont revenus dès la réouverture.
C'est notre petit coin de paradis en fait. On n'attendait que ça en fait, de revenir directement pour faire marcher tout le business. Quoi. On est les premiers.
€1,70.
À la maison de la presse, les affaires reprennent, mais Pascale Tournier, la gérante, est inquiète.
Nous avons repris le commerce ici depuis un an. On pensait faire une belle saison, notre première belle saison, on va dire. Et là, là on fera avec. Hein, voilà. Nos assurances sont prévenues, notre comptable est prévenu. On va voir ce qui se passe. Donc ça va laisser quand même des traces.
Ce lundi, le président de la région Nouvelle-Aquitaine réunit les acteurs économiques impactés pour faire le point sur leurs besoins.
Bon, merci.
À demain, voilà.
Pierre-Olivier Arès, RFI.
A priori, si.
Toujours en France, le feu est fixé près de Carcassonne. Ce n'est pas le cas de celui du Var, mais son évolution est favorable selon les pompiers. Les incendies sont violents également en Grèce. Deux pilotes d'hélicoptères sont morts hier. Leurs appareils se sont percutés alors qu'ils combattaient les flammes. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis déplore des journées extrêmement difficiles. Madrid et Rabat ne donnent pas le même bilan. Après l'entrée de plus de 60 000 migrants la semaine dernière à Ceuta, l'enclave espagnole au nord du Maroc, les autorités marocaines ont compté 11 morts, les autorités espagnoles 72. C'est bien plus, répond l'AMDH, l'association marocaine des droits humains, qui avance le chiffre de près de 130 morts. La quasi-totalité des migrants ont été renvoyés, mais cette crise met Madrid sous pression. Plusieurs de ses partenaires européens disent s'inquiéter de ses capacités à gérer Ceuta et son autre enclave au nord du Maroc, Melilla. Ignacio Sembrero est spécialiste des migrations dans le sud de l'Europe et notamment des migrations marocaines vers l'Espagne.
Ça représente un grand défi parce que l'État espagnol ne semble pas en mesure de défendre ces deux villes face à un déferlement souvent organisé de migrants marocains et donc il est à la merci apparemment d'une bonne relation, d'une relation cordiale avec le Maroc pour qu'il n'y envoie pas ces immigrants. Mais je dirais aussi qu'il n'est pas du tout facile pour ceux qui sont rentrés à Ceuta, une fois qu'ils sont là, de passer dans la péninsule, donc de rentrer sur le continent européen. Parce que quand on sort de Ceuta, il y a des contrôles douaniers et des contrôles de police. C'est une sorte de frontière intérieure. Donc arriver à Ceuta, ça ne veut pas du tout dire mettre le pied sur le continent européen. Loin de là.
Ignacio Sembrero, spécialiste des migrations dans le sud de l'Europe, il répondait à Yelena Tomic. Vous écoutez toujours RFI, il est maintenant 6h05, 7h05 à Gaza, 6h05 à Paris, 13 morts au moins après les dernières frappes israéliennes dans l'enclave palestinienne. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, puis dans la journée d'hier. Juillet a été particulièrement meurtrier, 152 morts, c'est le bilan mensuel le plus lourd depuis le début de l'année, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien lié au Hamas. Muriel Paradon.
Deir el-Bala dans le centre de la bande de Gaza, Khan Younes au sud, Jabalia au nord. Aucune ville ne semble avoir été épargnée par les frappes israéliennes, ni même la ville de Gaza. Si deux membres du Hamas ont été tués selon la presse locale, nombre de victimes sont des civils, des femmes et des enfants notamment. Des immeubles d'habitation et des tentes ont été frappés. Samedi déjà, plusieurs Palestiniens avaient été tués et un entrepôt de fournitures médicales près de l'hôpital Al-Aqsa a été ciblé. Israël affirme avoir détruit des dépôts d'armes du mouvement islamiste. De son côté, Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, accuse les Israéliens de torpiller les efforts pour mettre fin à la guerre. Cette intensification des bombardements intervient quelques jours après l'annonce de Donald Trump d'un accord sur le désarmement du Hamas, une nouvelle phase du plan de paix américain. Un cessez-le-feu a été acté en octobre dernier, mais depuis lors, plus de 1200 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé à Gaza, des chiffres jugés fiables par l'ONU.
Muriel Paradon, et j'ajoute qu'un haut représentant du Conseil de la paix, l'organisation lancée par Donald Trump pour concurrencer l'ONU, dit regretter ces dernières frappes israéliennes. Je cite, chaque partie est soumise à des obligations, parvenir à une paix durable est difficile, mais possible. Donald Trump qui annonce à nouveau une reprise des négociations ce lundi avec l'Iran. Le président des États-Unis a suspendu samedi les bombardements américains. Les discussions seraient selon lui sur le point d'aboutir pour rouvrir le détroit d'Hormuz, stratégique pour l'approvisionnement de la planète en pétrole. Téhéran et les pays médiateurs n'ont pour l'instant pas confirmé ces nouveaux pourparlers. Les États-Unis qui pèsent aussi de tout leur poids sur la transition politique en cours au Venezuela. 8 mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro, le président vénézuélien déchu salue tout chemin de dialogue dans un message publié sur les réseaux sociaux depuis sa prison de New York. Le pouvoir vénézuélien incarné par son ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez et l'opposition doivent reprendre les discussions la semaine prochaine sous donc le contrôle étroit de Washington, Alice Campagnol.
Un appel téléphonique samedi dans l'après-midi a marqué le début de ce qui devrait être un dialogue entre l'opposition et le chavisme au Venezuela. Un démarrage timide, des discussions avec 3 points à l'agenda. Aide aux sinistrés du séisme, renforcement de la démocratie, droits et garanties politiques. Des rencontres devraient avoir lieu dans la semaine entre députés de la majorité chaviste et représentants opposants du Parlement élu en 2015, un Parlement qui avait été empêché de légiférer. Ce dialogue a été imposé par Washington, qui maintient désormais le Venezuela sous tutelle et le soumet à un plan en 3 phases, stabilisation, récupération et transition. Mais l'absence de la dirigeante opposante et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, fait grincer des dents. Elle a cependant affirmé qu'elle ne ferait pas obstacle à cette initiative. Cela fait maintenant plus d'une décennie qu'opposition et gouvernement tentent de dialoguer au Venezuela sans jamais parvenir à de véritables changements politiques dans le pays. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Cuba dans le noir, l'île subit à nouveau une panne d'électricité à l'échelle nationale. Elles deviennent de plus en plus fréquentes, faute de carburant pour alimenter les centrales et les générateurs. C'est le résultat du blocus pétrolier mis en place par Donald Trump. Le président Paul Biya est en vie. Il n'y a aucune vacance du pouvoir au Cameroun. Déclaration du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, en exclusivité au micro de RFI. Le chef de l'État camerounais, 93 ans, n'est plus dans le pays depuis 8 semaines, une absence qui suscite les interrogations. Son ministre sera le grand invité Afrique de RFI à écouter à 5h47 et à 6h46, temps universel. Un geste de reconnaissance rare et très symbolique. Elaine Klein, une Américaine de 98 ans, a obtenu la nationalité algérienne. Cette ancienne journaliste et interprète a pris parti pour l'indépendance du pays dans les années 50 et 60. Elle y a même vécu en Algérie. Elle travaillait pour l'agence de presse nationale. Son histoire nous est racontée par Sofiane Amazian.
Née le 10 décembre 1928 dans une famille ouvrière à New York, Hélène Klein découvre la lutte du peuple algérien pour son indépendance lors de son installation en France à Paris en 1952. En se rapprochant des militants anticolonialistes, Hélène Klein finit par rejoindre le bureau du gouvernement provisoire de la République algérienne du côté de New York, avant de s'installer 2 ans plus tard en Algérie, où son travail de journaliste et d'interprète lui permet notamment de rencontrer d'autres figures du mouvement anticolonialiste comme Frantz Fanon, mais également d'accueillir des membres de mouvements de libération nationale africains et de la section internationale des Black Panthers. La journaliste a également l'occasion d'organiser le premier festival panafricain d'Alger en 1969. Mariée en 1972 à un ancien membre de l'armée nationale de libération, devenu écrivain Mokhtar Mortefi, l'américaine est contrainte de quitter Alger 2 ans plus tard. En 2019, Hélène Klein, devenue Hélène Mortefi, publie ses mémoires « Alger, capitale de la révolution » de Fanon au Black Panther, un ouvrage qui a connu un beau succès en Algérie.
Sofiane Amazian, l'île de la Réunion face au trafic de stupéfiants. Les autorités ont lancé le mois dernier un plan de lutte zéro drogue dans ce territoire français de l'océan Indien. 60 mesures sont déployées, de la prévention jusqu'à la répression. La cocaïne est très présente, mais une autre drogue fait des ravages, en particulier dans le sud de l'île. Il s'agit du doux, une drogue de synthèse très addictive qui inquiète les habitants. Lola Fourmi l'a constaté dans le quartier de Bois d'Olive à Saint-Pierre.
Surnommée la NEP dans l'Hexagone, rebaptisée ici le Doux, cette drogue se fume ou s'inhale à la pipe à eau. Kelly, 22 ans, est tombée dedans progressivement.
Avant, je fume pas vraiment.
Avant, je fumais pas vraiment, mais maintenant régulièrement, ça peut être tous les jours, mais en petite quantité, peut-être 2 taf, ça désoriente peut-être un peu le cerveau. Ça
désoriente un peu le cerveau.
À 100 euros le gramme, beaucoup de consommateurs se retrouvent à dealer, voler ou se prostituer pour avoir leur dose. Kelly, elle voudrait s'en sortir pour son fils de 3 ans, mais difficile au vu de l'accoutumance du produit.
Parce qu'il est vraiment éphémère, hein. La weena, oui, bien, après qu'on a pu.
Parce que l'effet est vraiment éphémère. Quand tu l'as, t'es bien, et quand tu l'as plus, t'es mal. Alors que ton enfant est là tous les jours, toute la vie. Et c'est pas le doux qui doit nous séparer de nos enfants.
Il doit séparer nous de nos enfants.
Dans ce quartier, le doux détruit des familles entières. C'est pour ça que Fatima Laurette, travailleuse sociale, alerte depuis des mois.
Moi, j'ai pas envie de laisser mes enfants dans l'hécatombe. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. On voit comme des zombies, en fait. Le cerveau inerte, ils sont comme ça, quoi. Pour moi, c'est la précarité qui ramène justement cette drogue-là, en fait, au final. Les riches ne prennent pas ça. Les riches, je dirais, ils déversent dans les quartiers pauvres comme nous ici, et puis même tous nos gamins. C'est tout.
En un an, les saisies de catinone de synthèse, produit de base du doux, ont plus que doublé à La Réunion.
Enfin, journaliste et technicien radio de Madagascar, l'appel à candidature est ouvert. 13e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, créée en hommage à nos 2 reporters assassinés au Mali le 2 novembre 2013. 10 personnes, 5 journalistes, 5 techniciens seront sélectionnés pour suivre des ateliers fin octobre. Pour candidater, il faut vivre sur la Grande Île, avoir moins de 35 ans et 2 ans d'expérience en radio. Plus d'informations sur notre site www.rfi.fr. Pédaler dans des allées boisées pour tenir face au changement climatique, c'est une solution envisagée dans la ville de Sydney, en Australie. Aménager des voies vertes, des pistes cyclables couvertes d'arbres pour relier entre les différents quartiers d'une grande ville, pensée pour la voiture, est vite insoutenable avec les températures qui montent. Avec ce projet, les dépenses de santé pourraient baisser de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. À Sydney, Grégory Pless.
Et si le secret pour survivre dans une jungle de béton, c'était de planter des arbres? Ce ne sont en tout cas pas les utilisateurs de la Inner West Greenway, une voie verte de 6 km ouverte en décembre dernier et presque entièrement abritée sous des arbres qui diront le contraire. À l'image par exemple de Lily qui y passe une bonne partie de son temps libre.
Je viens marcher ici quasiment tous les jours, c'est super. Depuis l'ouverture, il y a tellement de gens qui l'utilisent, ça fait prendre conscience à quel point nous avions besoin besoin de ce genre d'espace, en particulier ici, proche du centre-ville, pour les gens qui vivent en appartement.
C'est également le constat du Comité pour Sydney, un laboratoire d'idées qui a récemment appelé les autorités à construire beaucoup plus de voies vertes, à la fois pour rendre la ville plus cyclable, mais aussi et surtout pour la rendre plus fraîche. En particulier dans les banlieues ouest, à la fois très bétonnées et éloignées du littoral, où les coûts engendrés par les journées de forte chaleur sont énormes. C'est ce que rappelle Sam Kernaghan, directeur de la politique de résilience au Comité pour Sydney.
We're too full. Réponse, Kelly. Quant à ceux qui ont répondu qu'il fallait beaucoup écouter la radio pour devenir radioactif, ils sont à côté de la plaque.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Rockin' slot. facile. Il pleut des astéroïdes, sous huile ou stéroïde. Il se pleut comme androïde. L'être humain n'est plus humain dans son vide plus de zoïde.
Les mines et les flots sont d'air. Court-circuités par le vide, on est tous d'air. On vise et rarement on atteint le gros lot, le cœur fond dans
les MC sont les